Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration des principaux premiers ministres qui ont marqué l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus précisément à l'un des premiers travaillistes à avoir dirigé le gouvernement. Un monsieur qui s'appelle Billy Hughes et qui, par ailleurs, a eu la plus longue carrière parlementaire de l'histoire. Il a siégé au Parlement pendant plus de 50 ans. Bonjour Romain Fati, vous êtes notre historien maison et c'est avec vous qu'on va parler de ce monsieur aujourd'hui.
Bonjour Grégory, merci de nous recevoir.
Alors, première chose que je voulais dire à propos de ce Billy Hughes, je l'ai présenté comme un travailliste, mais on va voir au cours de cette histoire qu'il a en fait été membre d'un très grand nombre de partis politiques, et y compris peut-être jusqu'à l'inverse exact des travaillistes. Mais avant de parler de tout ça, on va peut-être revenir sur ses origines. Donc Billy Hughes, il est d'origine galloise, mais il est né à Londres. Ses parents sont des gens plutôt humbles, en tout cas qui n'ont pas de très très grands moyens. Et en fait, il arrive à l'Australie en tant que jeune adulte. Il a déjà 22 ans. Il arrive d'abord à Brisbane et puis ensuite, quelques années plus tard, il descend vers le sud pour s'installer en Nouvelle-Galles du Sud. Et pendant toute cette période de jeunesse, en fait, il va occuper un certain nombre d'emplois qu'on peut qualifier de petits boulots, des boulots manuels. C'est pas du tout ce qu'on appelle un col blanc. Et je me demandais si cette expérience, on va dire au bas de l'échelle sociale, c'est ce qui explique que d'un point de vue politique, il va plutôt s'engager d'abord dans la vie syndicale et puis ensuite donc avec le parti des travaillistes qui, comme son nom l'indique, est plutôt le parti des travailleurs que celui des patrons.
Oui, alors tout à fait, il y a de ça, on va y revenir. Pour le situer, il est né en 1862 et il décède en 1952. Il a une très longue longévité de 90 ans. Et donc, comme vous l'avez rappelé, il est né en Grande-Bretagne. Et donc, pas du tout aberrant qu'il devienne Premier ministre australien, puisque ça fait partie de l'Empire. Il est Premier ministre entre 1915 et février 1923, 7 ans. À l'époque, c'est le mandat le plus long. Et pour revenir sur sa jeunesse, effectivement, malheureusement, il perd sa maman très tôt. Je crois qu'il a 6 ou 7 ans quand sa maman décède. Son papa est charpentier, il a travaillé au palais de Westminster. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine conscience de classe assez jeune. Il va être élevé par sa tante, puisque son père doit continuer à travailler. Donc il est rapatrié chez les Gallois. Et il garde d'ailleurs une très bonne expérience de sa jeunesse et un amour pour la langue galloise. Et donc, voilà, assez jeune, on voit qu'il est plutôt bon à l'école et tout indique qu'il va devenir professeur. Et en fait, ça l'ennuie terriblement. Et il commence à voyager. Il va à Paris. Il a un petit peu de sous pour voir à droite à gauche. Enfin, on voit que c'est un jeune homme qui veut vivre, qui veut expérimenter. Il s'enrôle dans les Royal Fusiliers. Donc, il a une petite formation, toute petite formation militaire. Et puis, à l'âge de 22 ans, il se dit, bon, bah, je vais aller tenter ma chance dans l'Empire. Et il profite à l'époque. Vous savez, l'Australie avait des systèmes pour faire venir les Anglais et les Britanniques chez eux. Et donc, il leur payait le voyage, parce qu'il y a quand même 2 mois de bateau. À l'époque, ça coûte excessivement cher. Et donc, il profite de ce système pour aller en Australie gratuitement. Et quand il arrive à Brisbane, effectivement, il fait tout un tas de petits boulots. Alors là, on a un peu du mal à séparer la vérité de la légende, parce que, comment dirais-je, le principal intéressé lui-même ne nous a pas beaucoup aidés, en peut-être se créant certains petits boulots qu'il aurait occupés parce que politiquement, c'était avantageux pour lui. Mais enfin, on sait que il a conduit des bêtes, qu'il a travaillé dans des fermes, qu'il a ramassé des fruits, qu'il a été navigateur, qu'il a travaillé pour une forge, qu'il a travaillé pour un forgeron, qu'il a travaillé sur un bateau, qu'il a été chef. Ça, a priori, ça fait partie des petits boulots qui ont été prouvées. Et c'est dans une période assez rapide, ça dure quelques années. Donc, il change constamment de travail, il voyage beaucoup à pied. Il a fait des étendues assez colossales du Queensland jusqu'en Nouvelle-Galles du Sud. Et effectivement, dans ses pérégrinations, si vous voulez, il rencontre beaucoup de travailleurs de classe sociale très humble. Et en fait, il voit bien que socialement, il a du mal à percer. Et donc, petit à petit, en fait, il descend vers le sud et puis il s'installe à Sydney. Et en s'installant à Sydney, comment dirais-je, c'est là qu'il commence à s'intéresser, ou du moins, peut-être qu'il était intéressé avant par la politique, mais à rejoindre des mouvements de travailleurs. C'est le début du parti travailliste en Australie, donc l'équivalent en France, on pourrait dire, du parti socialiste. Et donc, cette gauche commence à s'assembler et il fait partie très tôt de ces mouvements. Si bien que il a le bénéfice de l'ancienneté et que assez rapidement il devient une petite personnalité politique locale et s'investit dans le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud.
Et alors, on va accélérer de quelques années, mais dans le précédent épisode où on parlait d'Alfred Deakin, on a expliqué que, en gros, sa carrière politique s'est terminée après une tentative de rassembler la droite, pour le dire un peu rapidement, et empêcher l'élection des travaillistes. Une tentative qui a échoué, puisque donc les travaillistes vont arriver au pouvoir pour la première fois en 1911. Et c'est à ce moment-là que Billy Hughes va pour la première fois devenir ministre. Et quelques années plus tard, en 1915, donc on est déjà en plein milieu de la, enfin on est en pleine Première Guerre mondiale. C'est là, dans cette période de crise intense, qu'il devient premier ministre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en plus il va y rester à l'époque, c'est un record de longévité, près de 8 ans en poste. Et non seulement il incarne un peu la nation dans cette période très tendue, mais il se fait aussi beaucoup remarquer sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui sur cette période?
Alors là, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. On est quand même 10 ans après la fédération en Australie. C'est un tout petit gouvernement, c'est une toute nouvelle fédération, si bien qu'il y a encore énormément de prérogatives qui sont soit liées à Londres, soit liées aux nouveaux États, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, etc. Et donc, le gouvernement fédéral australien, tout est en train de se construire, tout est en train de se faire. C'est vraiment les balbutiements, si vous voulez. Ça n'a pas l'importance que ça a aujourd'hui. Mais, et c'est ça qu'il faut introduire, Hughes, en tant qu'homme politique de cette époque, a un impact majeur. On a parlé de Deakin la semaine dernière sur la création de tout un tas d'institutions sur lesquelles on voit bien sa plume ou sa trace. Hughes, accroît les pouvoirs du gouvernement fédéral. Et en fait, pour ce faire, il bénéficie de la guerre. Et sous le gouvernement Fisher, il y a le War Precaution Act, qui est, si vous voulez, une espèce de Patriot Act de l'époque où, en fait, le gouvernement a des droits accrus pour préserver la nation et pour préserver le gouvernement du fait du contexte de guerre. Et en fait, ça permet au gouvernement australien de, si vous voulez, s'accaparer un certain nombre de pouvoirs vis-à-vis de législation sur la défense, sur la police, sur la taxation, sur plein de choses. Et Hughes, effectivement, commence en tant que ministre des Affaires étrangères, mais alors c'est un tout petit poste à l'époque, puisqu'en fait les Affaires étrangères, grosso modo, sont gérées depuis Londres, mais devient Attorney General, donc l'équivalent du ministre de la Justice, du ministère de la Justice, si vous voulez. Donc il monte en grade progressivement, et puis il devient surtout le second du Premier ministre Fisher. Fisher qui d'ailleurs est un peu à bout physiquement et qui finit bon gré mal gré par passer la main. Et c'est comme ça que Hughes arrive au gouvernement en tant que Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a monté les échelons progressivement, qu'il s'est rendu indispensable et qu'il a déjà une certaine notoriété auprès des Australiens. Il est déjà identifié comme quelqu'un de jeune qui en veut, qui est prêt à aller se battre. Et si vous voulez, cette personnalité séduit.
Et alors, je voulais vous avez expliqué comment toute cette période voit les pouvoirs du gouvernement fédéral s'accroître, mais On sait que cette période de la Première Guerre mondiale, elle a beaucoup marqué les Australiens. On avait consacré plusieurs épisodes à Anzac Day et ce que ça représente. Et vous nous aviez dit que donc ça a été instauré en 1915 et que c'est vraiment cet événement et cette commémoration qui a créé pour la première fois un vrai sentiment d'unité nationale et de distinction par rapport à l'Empire britannique et à Londres. Il a joué un rôle particulier, Hughes,
Oui.
dans tout ça?
Oui, tout à fait. Et je me suis pas encore lancé sur le côté international parce qu'on va y revenir. Il faut d'abord, je pense, poser les jalons. Et un de ces jalons, c'est effectivement ce contexte Première Guerre mondiale qui est absolument crucial à de très nombreux égards. La première chose qu'il faut dire, c'est que Hughes est totalement fidèle à la cause de la guerre. C'est quelqu'un qui est très remonté contre l'Allemagne, qui veut défendre l'Empire et qui donc veut envoyer des troupes. Et là, sous son mandat de Premier ministre, se passe une des campagnes les plus violentes politiquement en Australie au niveau fédéral qui s'était jamais déroulée. C'est celle de la conscription, parce que les Australiens sont volontaires. Et le problème du volontariat, c'est qu'en fait, bah, il y a très peu de gens qui se portent volontaires. Et donc, Hughes dit, bah, on n'a pas assez de nouvelles recrues, on ne fournit pas assez d'hommes à l'Empire, comment on pourrait s'y prendre? Je souhaite instaurer la conscription. Or, la Constitution me l'interdit pour autre chose que de la défense nationale, c'est-à-dire sur le territoire australien. Donc, il organise un plébiscite pour pouvoir essayer d'avoir un momentum politique pour changer les règles, et son parti se divise sur cette question. Se divise au point que le parti travailliste exclut son leader et premier ministre, Billy Hughes. Et vous pensez qu'il se serait dit, bon, mon parti me vire, j'arrête, je rentre, enfin, je me mets au pas, j'écoute. Non, non, non. C'est quelqu'un qui part en brûlant la maison et en sauvant les meubles qui peut. Et il part avec un certain nombre de fidèles et il s'associe à, grosso modo, un parti de centre-droit, de droite modérée, pour créer un nouveau parti qui est une sorte un peu d'union sacrée, si vous voulez, où le but, c'est de continuer la guerre et de donner suffisamment d'hommes australiens à l'armée. Et donc, ayant perdu un premier référendum en 1916, s'étant fait jeter de son parti comme un malpropre, il en réorganise un après une victoire électorale assez surprenante en 1917, et en fin 17 réorganise un second référendum, enfin plébiscite, où les Australiens disent non une nouvelle fois. Ce qui est important de retenir, c'est que ces deux plébiscites, la division est, comment dirais-je, entre le oui et le non. Le non l'emporte, mais de façon très faible la première fois, un peu moins faible la seconde, mais le pays est divisé. Il est vraiment divisé là-dessus, et c'est un moment, si vous voulez, qui a marqué les consciences australiennes, qui a un peu entaché le grand mythe de la Première Guerre mondiale, d'unité nationale, parce qu'en fait, non, c'est un pays qui est divisé et qui ne sait pas si elle doit forcer ses hommes à aller se battre ou pas. Et pendant ce temps-là, Hughes continue à consolider en fait son pouvoir et son équipe en l'élargissant. Et au même moment, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est souvent un premier ministre à distance. C'est-à-dire que pour défendre les intérêts de l'Australie, il est obligé de se rendre à Londres. Et à l'époque, il faut beaucoup de temps pour voyager. Et donc, on n'y va pas pour une semaine comme on voit aujourd'hui, ou 4 jours. Il y reste plusieurs mois. Il participe à un certain nombre de conférences aussi, vis-à-vis de comment traiter l'Allemagne, quel sera le futur après la guerre. Et donc, il se forge aussi cette personnalité à dimension internationale. Et en parallèle, succès total avec les Australiens, il rend visite à plusieurs reprises aux soldats sur la ligne de front. Les soldats qui l'appellent d'ailleurs le petit digger. Le digger, c'est le nom australien pour l'équivalent du poilu. Et donc, il a à la fois, si vous voulez, cette personnalité qui est attachante pour certains Australiens, de quelqu'un qui n'abandonne pas, qui va aller se battre, qui est un très bon orateur, quelqu'un qui sait aussi les représenter sur la scène internationale avec des figures politiques les plus importantes du moment, et en parallèle, quelqu'un qui est relativement bien aimé des soldats. Donc, il a quand même une assiette politique du fait de la population, tout simplement, c'est-à-dire que les Australiens le trouvent plutôt bon dans ce qu'il fait.
Et ce, malgré, comme vous le disiez, qu'il ait défendu ardemment une politique, en l'occurrence la mise en place de la conscription pour un conflit dans lequel l'Australie n'est pas directement impliquée, qui divisait profondément la société. C'est d'autant plus surprenant, du coup, qu'il ait joui d'une telle popularité. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On revient d'ici quelques jours pour aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à Billy Hughes. On s'intéressera plus précisément à son bilan sur la scène internationale puisqu'il est l'un des premiers premiers ministres australiens à se faire remarquer et surtout à se distinguer en tant qu'Australien de la Grande-Bretagne. À très bientôt.
Aimez. Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.